Journée sur RTL. Il est 18h. Le journal, Stéphanie Wenker.
Bonsoir. Nouveau virage démocratique à Valangin. La première assemblée citoyenne de la commune fusionnée de Neuchâtel s'est tenue hier soir en présence des autorités. Le premier bureau a été élu par tirage au sort. Les Verts veulent une gestion concertée des eaux de la région des Trois-Lacs. Des députés des quatre cantons concernés lancent un appel à leur gouvernement respectif. Et place au barrage de promotion-relégation, au hockey sur glace, la Chaux-de-Fonds défie Ajoie dès ce soir à Port-en-Truy, avec la possibilité d'aligner ses quatre mercenaires, autant d'atouts supplémentaires dans sa manche. Du côté du ciel, nous aurons de tout demain, des nuages, des averses et des éclaircies. Un nouvel outil démocratique débarque à Neuchâtel. La première assemblée citoyenne de la commune fusionnée s'est tenue hier à Valangin. Les autorités avaient fait le déplacement pour expliquer ce nouveau processus démocratique et répondre aux questions de la population. Les habitants ont également pu élire par tirage au sort les membres du bureau. Damien Piscopiello était à Valangin pour assister à la naissance de ce nouvel outil démocratique.
Un climat de curiosité et d'intérêt régnait parmi les personnes qui ont assisté à cette première assemblée citoyenne tenue à Valangin. Pourtant, un premier constat s'impose en rentrant dans la salle. Les jeunes n'ont pas répondu à l'appel. Pendant 2 heures, l'assemblée a malgré tout pu poser toutes ses questions et dialoguer avec les autorités. La quarantaine de Valanginois présents ont également pu élire les 5 membres du bureau de cette assemblée citoyenne par tirage au sort. L'histoire retiendra que la première membre élue a été Isalina Alves. Cette habitante, qui vit à Valangin depuis 35 ans, ne s'attendait pas du tout à ce scénario. Isalina Alves.
C'est un truc qui m'intéresse un petit peu parce que j'ai fait partie du conseil général avant, donc quand c'était la commune. Mais je ne m'attendais pas du tout. Mais je suis contente que je sois mon ex-voisine de quand je suis arrivée à Valangin. Donc, contente d'être avec elle, quoi.
Vous êtes quand même dans un bureau à majorité féminine. C'est aussi important pour vous?
Eh bien, ma voisine, là, elle m'a fait la remarque qu'on est 3 femmes, puis 2 mecs. J'ai dit, bon, je n'avais pas vu, mais c'est pas mal. C'est une petite victoire. Sans faire exprès, quoi.
Le but, ça va être aussi d'intéresser les jeunes aux décisions qui sont prises dans la commune?
Je pense, ouais. J'ai 2 enfants qui ne sont pas à Valangin, mais qui ont été à l'école ici. Donc, je peux aussi lui demander des conseils, des trucs comme ça, puisqu'ils sont nés là. Et puis, ben, j'ai un bon contact avec les jeunes aussi, ouais.
Isalina Alves n'est pas la seule des 5 membres du bureau à avoir eu une expérience politique dans le passé. La preuve aussi que ces assemblées citoyennes ont eu de la peine à générer de l'intérêt auprès d'un public moins politisé. On peut désormais se demander si ces dernières ne sont pas au final un refuge pour les anciens politiciens des communes. Pierre Pioux, doyen du nouveau bureau et ancien conseiller général, réfute l'argument et nous explique ce qui l'a attiré dans ce nouvel outil démocratique.
C'est l'originalité de la situation d'une démocratie directe, vraiment très directe, qui est apparemment originale, nouvelle. Et c'est le côté initiation, et c'est originalité qui m'attire un peu, oui.
De manière plus concrète, les discussions hier soir ont tourné autour du nombre de membres du bureau, de ses missions, mais surtout de la communication autour du travail de ce dernier. Les autorités communales comptent bien garder ce point à l'esprit pour l'avenir. Les explications de la présidente de la commission des assemblées citoyennes et des quartiers, Nicole Galland.
Nous serons très sensibles à ce que la communication soit vraiment optimale pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'intérêt qu'on peut porter et au résultat de ce que peuvent apporter les assemblées. Donc je dirais que pour l'instant, il y a quelques instruments qui ont été esquissés avec un site, le journal local, etc. Est-ce qu'il faudra prévoir quelque chose de plus dynamique? Est-ce qu'il faudra peut-être en tout cas s'adresser plus aux jeunes via des réseaux sociaux? Ça reste encore ouvert, ça. Mais pour l'instant, il y a des instruments de base qui ont été imaginés.
Les prochaines assemblées citoyennes auront lieu le 2 mai à Corcelles-Cormondrèche et le 10 mai à Peseux.
Et vous pouvez retrouver un dossier complet à ce sujet sur rtn.ch. La route entre Biofond et Fournay-Blancheroche sera fermée pendant près de 2 semaines. Des travaux d'entretien urgents doivent avoir lieu sur le tronçon suite à des vents violents qui ont fragilisé les arbres. La route sera fermée précisément entre le 3 et le 14 avril, du lundi au vendredi entre 8h et 16h. Une déviation sera mise en place par le col des Roches. La gestion des eaux doit être supracantonale, c'est la demande des Verts de la région des Trois-Lacs. Des élus de Neuchâtel, Berne, Fribourg et Vaud se sont réunis ce matin à Neuchâtel pour lancer un appel à leurs gouvernements respectifs. Un postulat a été déposé dans chaque législatif pour que les exécutifs se penchent sur la question des bassins versants qui alimentent les plans d'eau. Le député au Grand Conseil fribourgeois, Julien Villemier.
Nous avons moins de précipitations, ou de manière moins régulière. Nous voyons qu'en été, les cours d'eau font face à des périodes de sécheresse. Nous voyons qu'on a des périodes de crues qui sont renforcées. Et ça implique parfois des conflits d'usage entre les usages pour l'agriculture, les usages liés à la biodiversité, les usages parfois liés aux loisirs. Il faut bien décider quelles sont les priorités, qui décide de ces priorités. Et c'est bien là que nous avons besoin d'une concertation qui va au-delà de l'échelle cantonale.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discussion entre les cantons ?
Alors il y a des discussions, évidemment, parce qu'il y a des objets d'art qui sont déjà en commun, notamment les canaux, les barrages, il y a déjà une gestion concertée. Mais ce que nous demandons, c'est d'aller au-delà de l'aspect lac. Nous demandons une gestion des bassins versants. Ça veut dire aussi des affluents des différentes rivières qui sont présentes. Mais encore plus, la gestion de la ressource. Et la gestion de la ressource, elle ne peut pas être faite de la manière dont elle est faite maintenant. On n'est pas sur une gestion technique, on est vraiment sur une gestion qui est une forme de gouvernance de ce bien commun.
Quel est le risque si les cantons ne s'accordent pas sur cette question ?
On l'a vu l'été passé, les risques, ce sont des décisions qui se prennent au coup par coup, des autorisations de puiser dans des rivières pour irriguer, des difficultés par rapport à la faune piscicole. La situation, c'est qu'il n'y a pas de réglage, on se risque à avoir des conflits de voisinage, on se risque à avoir des conflits entre les différents groupes d'intérêts.
Des propos recueillis par Raphaël Girardin, les Verts espèrent que leur problématique sera traitée rapidement. Le Petit Bazar Printanier, c'est le nom d'un marché temporaire qui se tient à l'impension Bourgard de Fleurier depuis cet après-midi et jusqu'à dimanche. Ses organisatrices, Nadia Martina et Mélanie Racine, ont l'habitude de se lancer dans des organisations de différents projets. Cette fois, les deux amies avaient envie de fêter l'arrivée du printemps en mettant sur pied un petit marché avec différents produits. Que ce soit de la nourriture, mais aussi de l'artisanat et des expositions, il est possible de trouver de tout parmi la vingtaine de prestataires présents. Les produits locaux ont été privilégiés, comme le relève Nadia Martina.
On a essayé quand même de cibler un petit peu sur les gens qui nous environnaient, enfin, j'entends dans le Val de Travers. Hein. Et ensuite, c'était des contacts ou des affinités qu'on avait. Donc, variés, on a vraiment fait un mixte. Pour nous, les organisatrices, c'est clair qu'on n'a pas du tout misé sur gagner de l'argent. Je dirais même qu'on a investi en temps, en argent et en énergie énormément. Mais on aimerait juste avoir du monde pour remercier les exposants qui sont venus, qui ont joué le jeu, qui ont contribué à la location de la maison, cette magnifique maison musée régionale de Val de Travers. Hein. La pension Bourgard est un site extraordinaire. Et donc, s'ils ont du succès, bah, pour nous, ce sera une grande satisfaction. Pour nous, c'est égal. C'est pour eux qu'on aimerait vraiment que le succès soit là.
Et une deuxième édition pourrait être prévue si le succès de ce bazar printanier se confirme d'ici dimanche à Fleurier. La Commission des finances du Conseil des États a approuvé aujourd'hui à l'unanimité les deux crédits urgents. D'un montant de 109 milliards de francs, ils ont fait office de garantie dans le cadre de la reprise de Crédit Suisse par UBS. Les risques d'une faillite ont été largement discutés selon la présidente de la Commission, la PLR fribourgeoise, Johanna Gapani. C'est maintenant au tour du reste du Parlement de se prononcer. Le peuple devra sans doute revoter sur la loi Covid. Le référendum contre la prolongation des mesures face à la pandémie a été déposé ce matin. Le comité est composé de plusieurs groupes opposés aux restrictions comme Masfol ou les Amis de la Constitution. La loi Covid a été prolongée par le Parlement jusqu'en juin 2024 pour faire face à une éventuelle nouvelle vague. C'est surtout la possibilité de réintroduire un certificat qui dérange les référendaires. Ils considèrent cette mesure comme discriminatoire et n'en veulent plus, même provisoirement. Michèle Caillé, présidente du mouvement fédératif roman.
Il faut envoyer un signal fort, je pense, au public d'une part, et puis un signal fort au Conseil fédéral, au Parlement. Le Parlement doit reprendre ses compétences, on doit arrêter avec cet état d'urgence qui a été entériné par cette loi Covid, on doit arrêter avec ces discriminations et on doit arrêter avec cette division de la population qu'on a connue avec toutes les mesures qui ont été appliquées. Alors bien sûr, maintenant il n'y a plus de mesures, les choses elles s'apaisent, eh bien on aimerait que ça continue à s'apaiser et je pense qu'il faut donner un signal fort. Donc même si effectivement c'est entre guillemets que pour une année, puis après on ne sait pas, ça pourrait être prolongé, hein, parce que même si c'est que pour une année, on ne peut pas le savoir. Donc là, on met un terme à cette prolongation du certificat Covid.
Si le référendum est validé par la chancellerie fédérale, la prolongation de la loi Covid sera soumise au peuple le 18 juin. Le pape François va mieux. Il avait été hospitalisé hier à Rome pour une infection respiratoire. Il a repris le travail, a annoncé aujourd'hui le Vatican, apaisant ainsi les inquiétudes autour du chef de l'Église catholique. L'état de santé du souverain pontife de 86 ans s'améliore progressivement et les traitements prévus se poursuivent.
RTN, il est 18h10.
Sport.
Le HCC à l'assaut de la National League. Après avoir fêté son titre de Swiss League, le club de hockey sur glace Chaudefonnier ne bouderait pas une ascension à l'étage supérieur. On n'y est pas encore, il devra déjà se débarrasser du HC Ajoie au terme du barrage de promotion-relégation. La série se dispute au meilleur des 7 matchs. Le premier acte est programmé ce soir à 20h à Port-Antruy. Les joueurs de Louis Mat savent qu'ils affrontent une équipe rodée au rythme de l'élite du hockey helvétique. La différence de ligue va-t-elle parler en faveur de l'adversaire? Le défenseur chaudefonnier Anthony Huguenin nuance sa réponse, lui qui reste sur plus de 10 saisons à haut niveau.
Une série comme ça, c'est toujours compliqué à juger parce que ben, c'est la meilleure équipe de Swiss League contre la pire équipe de Liga. Donc je pense que l'écart est amoindri, mais je pense que la différence surtout, c'est la vitesse de jeu, la vitesse d'exécution, les passes, etc., la qualité dans les passes. Mais bon, on a prouvé cette année que notre jeu, c'est aussi un jeu offensif basé sur la rapidité et sur le jeu. Hein, ça va être une série très serrée. Je pense qu'on a vraiment les moyens d'aller chercher quelque chose.
Pour aborder ce derby de l'arc jurassien, le HC La Chaux-de-Fonds disposera d'un atout supplémentaire dans sa manche. Le coach Louis Mat est autorisé à aligner ses 4 étrangers contre 2 lors des playoffs de Swiss League. Il a clairement laissé sous-entendre qu'Alexandre Bengtsson et Kyle Topping figuraient bel et bien sur la feuille de match Louis Mat.
Peut-être que ceux d'Ajoie sont trop usés parce qu'ils ont trop joué dans la ronde de finale. Donc c'est du donnant-donnant quelque part, mais je pense que l'avantage qu'on a eu dans les playoffs, on a joué à 4 lignes. On était capable de donner des responsabilités à tout le monde. Je pense pas que ça change pour la ronde. Mes deux étrangers sont hyper contents de faire partie de l'aventure parce que c'était pas facile pour eux. Ils n'ont pas dit un mot, ils ont mis leur ego de côté. Puis maintenant, ben, ils veulent prouver qu'ils font partie. Puis que, ben, un peu, on avait tort peut-être de les pousser, mais je veux dire, après, c'était pour le bien de l'équipe. Puis chacun a compris son rôle. Donc, si j'améliore mon équipe, oui, je vais les aligner. Il faut amener un peu de fraîcheur aussi dans l'équipe. On connaît les forces et faiblesses de la joie et puis on va essayer de composer en fonction de ce premier match.
Un dossier réalisé par Marcel Neuenschwander. HC Ajoie, HC La Chaux-de-Fonds, une rencontre à suivre dès 19h45 et en intégralité sur RTN. En ski alpin, après son succès en descente, Delia Durer s'est également imposée en super G lors des championnats de Suisse à Verbier. La jeune Nidwaldienne de 20 ans s'est imposée devant Stéphanie Yenal et Juliana Souter. Lara Goudberami, Corinne Souter, Michel Guizine et Yasmine Flory n'étaient pas au départ. Et puis ce mot de F1 avec les places sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie qui ont été élargies de 20 cm. Ceci après la polémique née des pénalités infligées à Ocon et Alonso lors des 2 premières courses de la saison. Le Français et l'Espagnol avaient en effet écopé d'une pénalité de 5 secondes après s'être mal positionnés juste avant le départ, même s'ils n'avaient pas tiré profit ensuite de ce mauvais positionnement. Je vous retrouve à 18h30. Belle soirée.